La première, podcast.
Un jour dans l'histoire, Laurent de Hausset.
Nous sommes au Xe siècle, à Byzance, à la cour de l'empereur Nicéphore II. Écoutons le témoignage de l'évêque Liutprand de Crémone, un occidental en ambassade là-bas pour le comte d'Othon Ier du Saint-Empire. Il s'exprime sur un repas qu'on lui a servi et voici ce qu'il dit. Dîner passablement infâme, indécent à la manière des ivrognes, nageant dans l'huile et arrosé d'une sorte d'affreuse liqueur de poisson. L'homme d'église, vous l'avez compris, n'a pas bien mangé. C'est à la découverte d'une cuisine fusion, déjà, que nous vous emmenons aujourd'hui au carrefour des Carolingiens, des Byzantins et des Arabes.
Clous de girofle, noix de muscade, cannelle, de la chapelure en guise de farine, des oignons, du vin rouge, et hop! Voilà une dodine, une sauce typique qui accompagne les volailles.
Un jour dans l'histoire, sur la première.
Et on poursuit donc notre série d'exploration de la gastronomie à travers les âges avec Pierre Leclerc. Bonjour Pierre Leclerc.
Bonjour.
On peut retrouver toutes vos conférences, hein, toutes les dates sur le site lepetitlancelot.be. Alors, en 476, le chef germain Odoacre dépose le dernier empereur romain, Romulus Augustule. L'Europe se divise en une série de royaumes barbares alors que deux grands empires dominent en Orient, l'empire romain d'Orient ou byzantin, où l'on retrouve une culture grec, et puis l'empire sassanide, c'est un immense territoire qui englobe l'Iran actuel, l'Irak, l'Arménie, le Caucase Sud, plus une partie de l'Afghanistan, de la Turquie, de la Syrie, d'autres territoires encore. On est entre 224 et 651. Quel est le rôle des Arabes là-dedans?
Les Arabes, ils arriveront un petit peu plus tard, hein, au début du 7e siècle, et ce sera un petit peu la surprise. La surprise, les Arabes, ce sont quelques tribus nomades qui se font continuellement la guerre dans le désert d'Arabie. Et puis, au début du 7e siècle, ils vont s'unir sous l'autorité de Mahomet, le fondateur de l'islam. Et puis, pendant un siècle, ils vont se lancer dans des conquêtes absolument formidables qui vont réunir des territoires entre l'Espagne et l'Indus et qui vont carrément rayer l'empire sassanide de la carte, ainsi qu'une bonne partie de l'empire byzantin.
Pendant ce temps-là, les Francs, qui sont situés dans le nord de la Gaule, s'imposent sur les autres peuples germaniques, et au 8e siècle, leurs successeurs carolingiens vont unifier la plus grande partie du monde chrétien latin. Donc, on a la situation suivante, trois grandes civilisations qui se font face, carolingiens, byzantins, arabes. Chez les carolingiens, la situation est assez différente, il y a une sorte de retour en arrière.
Oui, et qui est dû essentiellement au très mauvais état de l'agriculture. Le système agricole antique est très peu performant et ne parvient pas à entretenir une civilisation citadine. Donc, il y a une dégénérescence, il y a une décadence des villes dans cet empire, dans ce royaume et puis empire franc.
Ce qui n'est pas le cas chez les Romains d'Orient et chez les Arabes.
Ah non, pas du tout. Là-bas, il y a un grand commerce, d'ailleurs un grand commerce international qui enrichit considérablement les villes où habite une élite économique très riche et qui fait vivre d'ailleurs et qui fait prospérer une agriculture florissante autour de ces villes.
Alors en matière d'agriculture, on assiste aux prémices d'une révolution du Moyen-Âge en Occident avec de nouveaux outils dans les premiers siècles de notre ère comme la faux qui va permettre d'améliorer le rendement et le stockage du foin par exemple. Mais il y a aussi le problème de l'endroit du stockage et puis du lieu où paissent les animaux qui sont très éloignés des champs. Qu'est-ce qu'on va faire?
Ben, on va créer les étables. Les étables, ça va être une innovation fondamentale au niveau de l'agriculture. C'est au cours de ce premier millénaire que ces innovations vont permettre d'arriver tout doucement à cette grande révolution agricole médiévale. Donc, les étables permettent de garder les bêtes à l'intérieur pendant la mauvaise saison, pendant cette saison où, auparavant, dans le nord de l'Europe, elles n'avaient pas suffisamment à manger. Donc ce foin qu'on va faucher grâce à la faux, qu'on va faucher pendant la bonne saison et qu'on va stocké dans l'étable pendant la mauvaise saison va permettre d'augmenter le bétail et va permettre d'augmenter le purin qui va servir à fumer les terres et donc on va pouvoir progressivement augmenter la rentabilité agricole.
Et on va aussi améliorer le transport lourd des matières organiques.
Et ça aussi, c'est fondamental, car c'est très bien d'avoir des bêtes dans l'étable, ouais. Mais il faut encore transporter le foin des prairies à l'étable et puis transporter le fumier de l'étable au champ. À Dodane, la manière dont on fonctionnait auparavant, ça n'est pas évident. Il y a des tonnes de matière à transporter. Il faut donc la charrette. La charrette qu'on connaît depuis longtemps, hein, elle est au 4e millénaire avant notre ère, elle est au Proche-Orient. Au 3e millénaire, elle est en Europe. Mais c'est un outil très cher, un outil qu'il est difficile d'acquérir. Dans l'armée, on l'utilise, les marchands l'utilisent pour transporter leurs denrées plus ou moins précieuses. Mais le paysan, lui, il n'a pas les moyens de s'acheter cette charrette. Et encore une fois, c'est au cours du 1er millénaire que progressivement, sa situation s'améliorant, il va pouvoir utiliser ce nouveau matériel fondamental.
À la table des Carolingiens, des Byzantins et des Arabes, nous sommes avec Pierre Leclerc.
Son repas commence au potager. Le jardinier et cueilleuse doivent trouver la meilleure oseille pour en tirer le verju, l'indispensable condiment acidulé présent dans la plupart des plats. Au passage, bien sûr, ses petites mains prélèveront l'ivrèche, aigre-moine ou raifort, parmi les 80 espèces communes de légumes recommandées à la culture depuis Charlemagne dans le capitulaire de Vilis.
Un jour dans l'histoire.
Histoire et cuisine, saveur médiévale, c'est un documentaire réalisé par Philippe Allante pour Arte. Nous sommes avec Pierre Leclerc à propos donc de cette table carolingienne, byzantine, arabe. Alors du seigle, de l'avoine, de l'orge, les pois chiches, la fève, les poireaux, l'oignon, l'ail, le navet, la carotte sont cultivés dans nos régions. Pierre Leclerc, dans le monde arabe, qu'est-ce qu'on va retrouver de préférence?
Et alors, dans le monde arabe, on retrouve des produits qui arrivent d'Orient, d'Inde, via la Perse, ouais, ou de Chine. Donc, de nouveaux produits arrivent, de nouveaux produits qu'ils vont répandre à travers la Méditerranée jusqu'en Espagne. Parmi ces produits, nous avons les agrumes, avec ouais, le citron et l'orange. Le citron qui est originaire du nord de l'Inde, l'orange qui est originaire de Chine. Mais attention, ici on parle d'orange amère, l'orange bigarade. C'est une orange extrêmement acide. L'orange douce, elle, n'arrivera que bien plus tard, à la fin du 15e siècle, directement importée par les Portugais. Arrivent également de cet Orient de nouveaux légumes, comme l'aubergine et les épinards, qui eux aussi vont être introduits en Espagne à partir des 12e, 13e siècles. L'aubergine, à l'état sauvage d'ailleurs, elle a fait un aller-retour. Elle existait dans le nord de l'Afrique et au Proche-Orient. Elle a migré de manière tout à fait sauvage vers l'Extrême-Orient et c'est en Extrême-Orient qu'elle a été domestiquée et puis elle va revenir domestiquée en Perse et puis dans le monde arabe.
Alors en Europe, au nord comme au sud, c'est l'élevage du porc qui domine. Pour la viande, ce sont des cochons plus petits que ceux que nous connaissons aujourd'hui. On consomme aussi les produits laitiers qui sont issus de l'élevage du mouton et de la chèvre. Un peu de bœuf, mais qui n'a pas trop de la côte. Et puis la basse-cour, par contre, qui a une place importante. Dans le monde arabe, qu'est-ce qu'on mange en matière de viande?
Alors là, bien évidemment, le porc n'est pas en odeur de sainteté. Ben, évidemment, c'est un interdit coranique, donc il est absolument interdit de manger ce porc. Au niveau de la viande la plus appréciée dans le monde arabe, ben, ça reste la viande arabe, originelle, on va dire, des tribus arabes. Il s'agit du chameau, qui était très apprécié par Mahomet lui-même, d'ailleurs, et du mouton. Ces viandes les plus grasses possibles. On apprécie, évidemment, mais ça, c'est un peu un point commun de toutes les civilisations. On aime les viandes bien grasses.
Alors, on le disait tout à l'heure, en Europe, dans le haut Moyen-Âge, c'est le paysage rural qui domine. Tout s'entremêle, la ville, la campagne, les forêts, les champs, les prés, les vignes, les jardins, les marais. C'est une sorte d'âge d'or pour l'alimentation. Mais pour les populations, ça se traduit comment? On mange mieux que précédemment?
Oui, et ça, c'est un peu un paradoxe de l'époque, parce qu'on a l'impression d'une régression, parce que la ville régresse. Ouais. Mais d'un autre côté, la population a accès au monde sauvage où elle puise beaucoup de son alimentation. On pourrait dire dans les grandes lignes qu'on revient un petit peu à ce régime idéal du paléolithique. Donc à la fois, on mange des aliments domestiqués, mais aussi beaucoup d'aliments sauvages, que ce soit du gibier ou du produit de la cueillette ou de la pêche. Par après, ça ne sera plus possible. 2-3 siècles plus tard, la forêt va être privatisée, elle va se fermer. On ne pourra plus aller y ponctuer ce dont on a besoin. Et donc le régime alimentaire des paysans, et c'était le cas avant aussi, sera beaucoup, beaucoup moins varié que ce qu'il n'a été pendant ces quelques siècles du haut Moyen-Âge, où, n'oublions quand même pas, les paysans subissaient quand même des razzias et des invasions de tout genre. Tout n'était pas rose pour eux, bien entendu. Mais au niveau du régime alimentaire, on se rend compte qu'il a été exceptionnellement varié.
Il faut donc rappeler que la chasse comme privilège aristocratique, ça arrive quoi, au 9e, 10e siècle à peu près ?
9e, 10e siècle, exactement.
Dans le monde arabe, qu'est-ce qu'on chasse ? Alors, on mange le chameau, mais on mange d'autres choses aussi.
On est surtout braqué sur la gazelle. La gazelle est vraiment le gibier préféré. On apprend que, par exemple, le lièvre et le lapin, qui étaient très appréciés par les chasseurs romains, ne l'est absolument plus. On a même des techniques de chasse assez particulières. On utilise des cloisons amovibles qui vont enfermer le gibier. Une fois que le gibier est enfermé, la personne privilégiée va pouvoir la chasser beaucoup plus facilement.
Revenons en Europe, au haut Moyen-Âge toujours, avec ce qui semble être une régression, puisqu'on ne va plus chercher les épices en Inde. Pourquoi ?
Déjà, on ne connaît plus la route des Indes, mais surtout, ce sont les Sassanides, ce sont les Perses qui ont un monopole sur la navigation dans l'océan Indien. Les Européens n'ont absolument plus accès à ce marché. Et donc, les épices vont être achetées par les Perses, et puis les Perses vont les revendre en Europe, mais ils vont aller en Europe. Donc les Perses dominent absolument ce marché d'Est en Ouest. Et au 7e siècle, on a même des comptoirs perses à Paris, où ils vendent les épices. Et puis, dans les siècles suivants, ce sont des sortes de guildes juives qui vont prendre la relève. Les juifs qui, sous le régime musulman, ont cet avantage de pouvoir circuler à la fois en territoire musulman et en territoire chrétien. Et les juifs, eux aussi, vont dominer ce commerce d'Est en Ouest, et là il faut attendre les 10e, 11e siècles pour que les villes italiennes se réveillent. Et là, ce sont les ports tels que Venise ou Gênes qui vont prendre le relais de ce commerce à partir des villes d'Orient jusqu'en Europe.
Les sauces sont liées avec du jaune d'œuf, de la mie de pain, de la poudre de noix ou d'amande. C'est parti pour mijoter 20 minutes à feu doux.
Toujours extrait ici du documentaire de Philippe Allant pour Arte, Histoire en cuisine, saveur médiévale. Pierre Leclerc est avec nous. La culture romaine va beaucoup intéresser les conquérants barbares, dont le souhait sera de la perpétuer, y compris en matière donc de gastronomie. Le pain et le vin comme symbole très très fort, c'est une sorte d'union de toutes ces cuisines.
Oui, et il y a une sacralisation de ces deux symboles de la cuisine méditerranéenne, le pain et le vin. Sacralisation dans la religion chrétienne. L'Eucharistie concerne le pain et le vin. Il y a donc une perpétuation de cette tradition culinaire romaine à travers tout le monde franc. Mais attention, maintenant, quand on parle de pain dans le monde franc, il faut bien avoir en tête que les céréales qui sont cultivées sont des céréales de seconde zone. C'est du seigle, c'est de l'avoine, avec lesquels on va faire un pain finalement assez peu levé, qui ressemble davantage à la galette, qui est beaucoup plus épais et donc qui n'est pas tout à fait ce beau pain levé sur lequel on fantasme la plupart du temps.
Et puis, pour des raisons géographiques évidentes, les Germains vont utiliser plutôt le beurre plus que l'huile.
Ils sont beaucoup plus intéressés par le beurre ainsi que par la bière, ce qui gêne beaucoup les autorités ecclésiastiques qui voudraient imposer le vin partout. Mais évidemment, le beurre. Et d'ailleurs, lorsque le beurre sera interdit par la religion chrétienne, cela va beaucoup plus embêter les Francs dans le Nord que les habitants de la Méditerranée qui, eux, finalement, avec leur huile d'olive, n'ont pas vraiment besoin de beurre.
Comment vont cohabiter ces cultures romaines et barbares? On imagine le raffinement d'un côté, une certaine brutalité de l'autre, c'est un peu schématique, ça?
Oui, effectivement, c'est un peu stéréotypé. Les élites barbares, entre guillemets, sont absolument fascinées par la culture romaine. Donc eux, tout ce qu'ils veulent, c'est perpétuer cette culture absolument brillante romaine. Et lorsque Odoacre dépose le dernier empereur romain, ça n'est pas pour détruire l'Empire, au contraire, c'est pour reconstituer ce grand empire romain, ce qui ne se fera jamais. Mais évidemment, il y a des différences culturelles entre les Germains et les Romains. Et d'ailleurs, il y a dans les textes, on retrouve pas mal de plaintes de Romains vis-à-vis des habitudes culinaires des Germains, et notamment notre pauvre Sidoine Apollinaire, qui effaré se rend compte que ces guerriers burgondes, hein, car il habite à Lyon, on est en territoire burgonde, mange de l'ail et de l'oignon. Pour lui, c'est insupportable. L'ail et l'oignon sont des marqueurs d'une cuisine populaire. Voyant ces guerriers manger de l'ail et de l'oignon, pour Sidoine Apollinaire, il est en face de gens du bas peuple. Et ça l'indispose au plus haut degré.
Donc plus une différence de classe sociale au fond que de culture.
Exactement.
Autre symbole très très fort, on revient à la viande. Donc la viande, source de puissance. Chez les Grecs, les Romains, on l'a dit déjà lors d'une autre émission, on la consomme de manière cuite, c'est ça, hein. C'est une sorte de marqueur de civilisation.
Oui, exactement. Et d'ailleurs, dans la diététique grec, qui a toujours plus ou moins cours, les viandes, les poissons doivent être cuits dans un milieu liquide et bien cuit. C'est comme ça qu'on considère que le plat est le plus sain pour la santé. Chez les Germains, les choses sont tout à fait différentes. On préfère les viandes grillées, les viandes rôties. On sait bien que Charlemagne a beaucoup de difficultés avec son médecin qui veut lui imposer de la viande bouillie. Ah non, Charlemagne, lui, ne veut pas de ça. Il veut sa viande rôtie.
C'est très lié aussi chez les Germains à la guerre, la viande.
Oui, voilà, exactement. La chasse est très importante dans la culture germanique. Un bon chasseur, c'est un bon guerrier. Un bon guerrier, c'est quelqu'un qui est puissant. Donc il va y avoir un point commun entre la puissance, la chasse, la viande, la force. Le bon chasseur est le bon guerrier. Il est fort, il est puissant, il domine les autres. Donc on valorise absolument cette chasse, ce qui n'était pas le cas dans la culture romaine.
À Byzance, on est plus traditionnel, on garde plus on regarde vers le passé.
Oui, exactement. Enfin, on regarde vers le passé, surtout on perpétue les traditions romaines, les traditions byzantines. On continue à banqueter couché. Ça, cela ne changera que qu'au 11e, 12e siècle. On a toujours des goûts semblables. On aime la coriandre, qu'on va associer à la cannelle. Là, la cannelle, elle n'était peut-être pas présente chez les Romains. On continue à utiliser le garum, c'est-à-dire la sauce de poisson fermenté qui indispose beaucoup les Occidentaux, qui, eux, ont un peu oublié cette sauce de poisson. On aime toujours bien les truffes, mais il y a quand même des nouveautés. C'est chez les Byzantins, par exemple, pour la première fois qu'on trouve trace de caviar. Les épices sont toujours les mêmes. Le poivre, qui est très utilisé. Le costus, qui est toujours utilisé. Le nard indien, qui est toujours utilisé. Donc là, on voit qu'on est quand même dans cette perpétuation du goût romain qu'on ne change pas beaucoup.
Le légumier, de son côté, a pilé deux pincées de gingembre, de poivre et de safran, avec de la mie de pain. L'écuyer a mis les petits plats dans les grands.
Jusqu'à 14h30, un jour dans l'histoire, sur la première.
Alors que ce soit chez les chrétiens ou les musulmans, Pierre Leclerc, la religion occupe évidemment une place importante dans l'alimentation, surtout par ses interdits. On en a évoqué quelques-uns tout à l'heure. Chez les chrétiens, on est quand même plus tolérant par rapport à la tradition du judaïsme, par exemple.
Oui, alors là, il y a beaucoup d'allées et venues, on va dire. Hein, parce que, bon, au départ, chez les chrétiens, les choses sont simples. Saint Paul l'a dit dans son épître aux Romains, rien n'est impur par soi-même. Ce qui veut dire que toutes les règles alimentaires très complexes qu'il y a chez les Juifs dans l'Ancien Testament tombe. Par contre, il va ajouter dans son épître aux Galates que la goinfrerie et l'ivrognerie sont condamnables. Ouais. Et alors là, les chrétiens vont élaborer de nouvelles règles alimentaires par rapport à cette condamnation. Et là, on va entrer dans le système de jeûne. Et en même temps, on va réhabiliter, et ça ne se fait qu'au 8e siècle finalement, réhabiliter des interdits de l'Ancien Testament. On va interdire les corvidés par exemple, hein, les corbeaux, corneilles, etc. On interdit à nouveau le lièvre. Ça, c'était dans l'Ancien Testament. On ajoute même de nouveaux interdits, comme la cigogne, par exemple, qu'on considère comme vénéneuse parce qu'elle mange des serpents. On va également perpétuer le sacrifice le même que chez les Juifs, jusqu'au 9e siècle. Donc les chrétiens continuent à abattre les bêtes rituellement jusqu'au 9e siècle, ce qui nous paraît, ouais, nous, assez surprenant. Mais tout cela n'est absolument pas biblique.
Avec un interdit pendant la période de jeûne sur la viande notamment, surtout. Alors pourquoi la viande ?
Eh bien justement, comme on l'a dit tout à l'heure, la viande représente la force. Elle représente la violence, le sang. Elle représente également la sexualité. C'est tout ce qu'un moine, ce, ouais, qu'un bon chrétien doit absolument éviter. Donc, à partir du moment où, dans la période de jeûne, qui au départ est une véritable période de jeûne, pendant le carême, pendant tous les jours de jeûne, on ne mange pas du lever au coucher du soleil. À un moment donné, on va basculer, on va dire, oui, finalement, on peut quand même manger pendant la journée, mais pas n'importe quoi. Tout ce qui rappelle ce qui est succulent, tout ce qui rappelle la force, la puissance, le sang, la sexualité, va être interdit. Ce sera la viande et tous les produits dérivés de l'animal, c'est-à-dire les produits laitiers, ainsi que les œufs.
Et là aussi, devant ces périodes d'abstinence, de jeûne, il y a une différence de classe, c'est-à-dire qu'on n'est pas tous égaux devant ce jeûne.
Et non, ben non, hélas. À partir du moment où on réduit les produits qu'on peut manger, et ici, c'est réduit essentiellement aux végétaux et aux poissons, parce que le poisson, lui, n'est pas considéré comme succulent. Le poisson ne représente pas la force et la violence. En plus, c'est un symbole christique. Donc le poisson, on peut le manger. Mais pour les populations qui n'ont pas accès au poisson frais, ben pour elles, ça sera tous les jours du hareng séché, un point, c'est tout. Ouais.
Et on va voir que va se mettre en place toute une sorte de culture du maigre avec des recettes très succulentes, très raffinées, chez plutôt les riches. Donc, chez les musulmans, contrairement à ce qu'on pourrait croire, il n'y a pas non plus beaucoup d'interdits.
Ben non, il n'y en a pas beaucoup. Ils sont coraniques, ils sont d'inspiration chrétienne et juive. Ben on a déjà l'abattage rituel, il y a le tabou du sang. Il y a l'interdit du porc, bien entendu, ça c'est le plus célèbre. Ouais. Il y a également les jours de jeûne. Eux aussi vont jeûner. Et puis, un tabou qui lui n'est pas du tout coranique, c'est le tabou de l'alcool, et qui va être plus ou moins respecté. Et on sait que dans le monde musulman, bah, le tabou de l'alcool est beaucoup moins important que les autres tabous qui sont coraniques, alors que celui de l'alcool ne l'est pas.
On va passer à table, hein, puisqu'il nous reste quelques minutes. On l'a déjà dit dans d'autres émissions, le banquet a bien sûr une symbolique politique et religieuse. Quand est-ce qu'il se laïcise plus, ce banquet ?
Bah, chez les chrétiens, c'est au 6e siècle, hein, en 561, concile d'Auxerre, là on décide une bonne fois pour toutes qu'on ne peut plus banqueter à l'église, car les chrétiens banquetaient à l'église. Ouais. C'était tout à fait normal pour eux, dans le monde romain, dans le monde grec d'ailleurs, on banquetait également dans le temple. Donc à partir de ce 6e siècle, interdiction de banqueter à l'église, le seul repas admis, entre guillemets, ben, c'est l'Eucharistie. Et donc là, le banquet va se laïciser, il ne va subsister que cet aspect politique dans le banquet. Dans cet aspect politique, ben, c'est davantage l'abondance qui va primer. Et là, on n'est plus du tout dans ce modèle grec et romain où c'est le partage de la connaissance qui primait. Maintenant, c'est l'abondance. Et l'abondance de viande, les viandes d'ailleurs qui vont être présentées en d'impressionnantes pyramides.
Avec le rôle du prince, et là j'aime beaucoup ce genre de détail, hein, le mot « lord » vient aussi de ce rôle que revêt le prince. Alors quel rôle il a ?
Ben, le gardien du pain, l'ord, ben finalement, c'est celui qui nourrit son peuple. Et dans les halls qui apparaissent dans le nord de l'Europe à ce moment-là, et pour ceux qui connaissent la légende de Beowulf, connaissent bien ce hall, dans ce hall, il y a un grand chaudron qui symbolise ce rôle nourricier du lord, du chef.
Qui viendrait donc ce mot lord du vieil anglais Larford, quelque chose comme ça, gardien du pain. Il n'y a pas de grande différence finalement entre le déroulement du banquet chez les Byzantins, chez les Carolingiens et chez les Arabes.
Disons que dans l'évolution, on a trois manières différentes de banqueter. Chez les Arabes, là c'est la tradition originelle arabe qui prime. On est assis en tailleur et on va manger une suite de mets qu'on va retrouver d'ailleurs par après en Europe. On commence par des amuse-bouches, on va dire. Ouais. On poursuit par des viandes et poissons cuits dans un milieu liquide. Ensuite, c'est le rôti et puis c'est le fruit. Chez les Byzantins, comme on l'a dit, là, on va demeurer couché. Et on a d'ailleurs des mises en scène assez extraordinaires avec des plats qui descendent du plafond, ouais, par exemple. Et puis, chez les Francs, on ne se couche plus. Là, c'est la tradition germanique qui va primer et on va s'asseoir autour de la table.
Voilà, pour ces banquets, cette table des Carolingiens, des Byzantins et des Arabes, on peut retrouver toutes vos activités, hein, qui sont nombreuses, Pierre Leclerc, sur le site lepetitlancelot.be. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Merci.